Deuxième jour, Compli. Où l'on entre dans l'édifice, l'on découvre un visiteur mystérieux, l'on trouve un message secret avec des signes de nécromant et disparaît. À peine trouvé, un livre qui sera ensuite recherché pendant bien d'autres chapitres et, vicissitude qui n'est pas la dernière, où l'on vole les précieux vers de Guillaume.
Le souper fut triste et silencieux. Un peu plus de 12 heures étaient passées depuis qu'on avait découvert le cadavre de Vénantius. Tous regardaient à la dérobée sa place vide à table. Quand ce fut l'heure de Compli, le cortège qui se rendit dans le chœur avait l'allure d'un défilé funèbre. Nous participâmes à l'office, placés dans la nef, et ne perdant pas de vue la troisième chapelle. L'éclairage était faible, et lorsque nous vîmes Malachie émerger de l'obscurité pour rejoindre sa stalle, nous ne pûmes comprendre d'où il sortait exactement. Par précaution, nous nous glissâmes dans l'ombre, nous cachant dans la nef latérale pour que personne ne vît que nous restions là, l'office terminé. J'avais dans mon scapulaire la lampe dérobée à la cuisine pendant le souper. Nous l'allumerions ensuite au grand trépied de bronze qui brûlait toute la nuit. J'apportais une mèche neuve et beaucoup d'huile. Nous aurions de la lumière pour un long temps. J'étais trop excité par ce que nous nous apprêtions à faire pour accorder la moindre attention au rite qui finit sans que je m'en aperçusse ou presque. Les moines rabattirent leurs capuchons sur leur visage et sortirent en lente colonne pour se rendre dans leurs cellules. L'église resta déserte, éclairée par les lueurs du trépied. « Allons, dit Guillaume, au travail. » Nous nous approchâmes de la troisième chapelle. La base de l'autel était vraiment semblable à un ossuaire. Une série de crânes aux orbites vides et profondes inspirait la peur à qui les regardait, posés comme ils apparaissaient dans l'admirable nef, sur un monceau de tibia. Guillaume répéta à voix basse les paroles qu'il avait entendues de la bouche d'Ali Nardo. Quatrième crâne à droite, enfonce les yeux. Il introduisit les doigts dans les orbites de ce visage décharné, et aussitôt nous entendîmes comme un grincement rauque. L'autel bougea, tournant sur un pivot secret, et laissa entrevoir une ouverture noire. Comme j'élevais ma lampe pour l'éclairer, nous aperçûmes des escaliers humides. Nous décidâmes de les descendre après avoir discuté si nous devions refermer le passage derrière nous. « Il ne valait mieux pas, dit Guillaume, nous ne savions pas si nous aurions pu le rouvrir après. » Et quant au risque d'être découvert, si quelqu'un parvenait à cette heure-là à manœuvrer le même mécanisme, c'était parce qu'il savait comment entrer, et un passage fermé ne l'aurait pas arrêté. Nous descendîmes une bonne dizaine d'escaliers et pénétrâmes dans un couloir où s'ouvraient de chaque côté des niches horizontales, comme il m'arriva de voir plus tard dans de nombreuses catacombes. Mais c'était la première fois que je pénétrais dans un ossuaire, et je fus glacé d'effroi. Les os des moines avaient été recueillis là au cours des siècles, exhumés d'abord, et amassés dans les niches sans qu'on tentât de recomposer la forme de leur corps. Cependant, certaines niches n'étaient remplies que d'os menus, d'autres que de crânes, bien disposés presque en pyramide de façon à ne pas rouler les uns sur les autres, et c'était en vérité un spectacle terrifiant, surtout avec le jeu d'ombre et de lumière que la lampe projetait le long de notre chemin. Dans une niche, je ne vis que des mains, une quantité énorme de mains, désormais irrémédiablement entrelacées, dans un enchevêtrement de doigts morts. Je poussai un cri dans ce lieu de mort, éprouvant un instant la sensation de quelque chose de vivant, un couinement et un mouvement éclair dans l'ombre. « Des rats !» me rassura Guillaume. « Que font ici ces rats ?»«
Ils passent, comme nous, car le suaire conduit à l'édifice, et donc aux cuisines. Et aux bons livres de la bibliothèque. »
Maintenant, tu comprends pourquoi Malachie a un visage aussi austère. Ses fonctions l'obligent à passer par ici 2 fois par jour, le soir et le matin. Il n'a certes pas matière à rire, lui.
Mais pourquoi l'Évangile ne dit-il jamais que Christ riait ? Demandai-je un peu sans raison. En va-t-il vraiment comme dit Iorgé ?
Ils ont été légion, ceux qui se sont demandé si Christ a jamais ri. La chose ne m'intéresse pas beaucoup. Je crois qu'il n'a jamais ri, car, omniscient comme devait l'être le Fils de Dieu, il savait ce que nous ferions, nous, les chrétiens. Mais nous voilà arrivés. Et en effet, grâce à Dieu, le couloir prenait fin. Une nouvelle série d'escaliers commençait, et les ayant parcourus, nous n'eûmes plus qu'à pousser une porte de bois massif renforcée de fer. Nous nous trouvâmes derrière la cheminée des cuisines, juste sous l'escalier à vis qui montait au scriptorium.
Tandis que nous montions, nous eûmes l'impression d'entendre un bruit venant d'en haut. Nous restâmes un instant en silence, puis je dis « C'est impossible, personne n'est entré avant nous », en admettant que cette voie soit la seule qui mène à l'édifice. Dans les siècles passés, c'était là une forteresse, et il doit y avoir plus d'accès secrets que nous n'imaginons. Montons doucement. Mais nous n'avons pas le choix. Si nous éteignons la lampe, nous ne savons pas où nous allons. Si nous la gardons allumée, nous donnons l'alarme à qui se trouve en haut. Notre unique espoir est que s'il y a quelqu'un, il ait plus peur que nous. Nous arrivâmes dans le scriptorium, en émergeant de la tour méridionale. La table de Vénantius se trouvait juste du côté opposé. En nous déplaçant, nous n'éclairions pas plus que quelques brasses de mur à la fois, car la salle était trop vaste. Nous espérâmes que personne ne fût dans la cour et ne vit la lumière transparaître aux verrières. La table paraissait en ordre, mais Guillaume se pencha aussitôt pour examiner les feuilles sur l'étagère du dessous et poussa une exclamation de désappointement. « Il manque quelque chose ? » demandai-je. « Aujourd'hui, j'ai vu ici deux livres, et l'un était en grec, et c'est celui-ci qui manque. Quelqu'un l'a distrait, en toute hâte, car on a laissé ici un parchemin tombé à terre. Mais la table était gardée. « Certes. Peut-être quelqu'un vient-il tout juste d'y fourrager, peut-être. Est-il encore ici ?» Il se tourna vers les ombres et sa voix résonna entre les colonnes.
« Si tu es là, attention à toi !»
Ce me sembla une bonne idée. Comme Guillaume l'avait déjà dit, il est toujours préférable que celui qui nous inspire de la peur ait plus peur que nous. Guillaume posa la feuille qu'il avait trouvée au pied de la table et en approcha son visage. Il me demanda de l'éclairer. Je tendis la lampe et aperçus une page à moitié blanche dans sa partie supérieure et dans la seconde moitié couverte de caractères si minuscules que je n'en reconnus qu'avec peine l'origine. « C'est du grec ? » demandai-je. «
Oui, mais je ne comprends pas bien. »
Il tira ses verres de sa coule et les mit solidement en selle sur son nez, après quoi il pencha davantage encore son visage. « C'est du grec, écrit tout petit et de façon désordonnée. » Ah, même avec les verres, j'ai peine à lire, il faudrait plus de lumière, approche-toi. » Il avait pris la feuille, la tenant à hauteur de son nez, et moi comme un sot, au lieu de passer derrière lui en tenant la lampe au-dessus de sa tête, je me plaçai juste devant lui. Il me demanda de me déplacer sur le côté, et ce faisant, j'effleurai de la flamme le verso de la feuille. Guillaume me chassa d'une bourrade en me demandant si je voulais brûler le manuscrit, puis il eut une exclamation. Je vis nettement que dans le haut de la page était apparu quelques signes imprécis d'une couleur jaune-brun. Guillaume se fit donner la lampe et la passa derrière la feuille, tenant la flamme suffisamment proche de la surface du parchemin pour qu'elle le réchauffe sans toutefois le lécher. Manet, Tessel, Pharès, vis-je se dessiner sur le côté blanc de la feuille, l'un après l'autre, au fur et à mesure que Guillaume déplaçait la lumière, et tandis que la fumée qui sinuait au sommet de la flamme noircissait le recto. Des traits qui ne ressemblaient à ceux d'aucun alphabet, si ce n'est à celui des nécromants.
« Fantastique !» dit Guillaume. « De plus en plus intéressant. »
Il regarda autour de lui.
« Mais il vaudrait mieux ne pas exposer cette découverte aux embûches de notre hôte mystérieux, s'il est encore ici. »
Il ôta ses verres et les posa sur la table, puis il enroula avec soin le parchemin et le cacha dans sa coule.